Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
h sur campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au sommaire ce soir, si vous êtes angevin, vous connaissez forcément le Shabada, cette salle de concert au nord d'Angers. Cette année, la salle fête ses 30 ans et à l'occasion, un podcast qui retrace sa création depuis 1994. Une salle à faire, un podcast réalisé par Sébastien Rochard et Tiffaine Cressé. Mais avant, nous retrouvons Victor pour son flash info quotidien. Allez, c'est parti, ajustez bien votre gilet de sauvetage, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Salut Victor.
Salut Arthur. Salut à tous.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va super et toi?
Ça va très bien. Et on part vers la Nouvelle-Calédonie, puisqu'après plus d'un mois de violence, cette journée marque un retour progressif à la vie normale.
Les violences provoquées en mai dernier à la suite d'une réforme électorale avaient plongé le territoire français dans une grave vague de violences, provoquant pas moins de 9 morts. L'aéroport de Nouméa, fermé depuis le 14 mai, a réouvert cet après-midi. Les élèves ont également repris les cours ce lundi et le couvre-feu initialement programmé à 18h a été repoussé à 20h.
Éric Ciotti, le président des Républicains, est visé dans une nouvelle affaire.
À 2 semaines des élections législatives, l'homme politique est visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Cette affaire remonte à 2022 lors de sa campagne législative. Pour rappel, une autre enquête préliminaire avait été ouverte en janvier contre lui. L'homme était soupçonné de faire du cumul d'emplois au conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Angers s'est aussi mobilisé contre l'extrême droite ce week-end.
Plus de 3000 personnes se sont réunies samedi dernier, place du ralliement à Angers. Malgré un mauvais temps, l'intersyndicale CGT, CFDT, UNSA, FSU et Solidaires appelaient à se rassembler contre la montée de l'extrême droite. Un contexte politique tendu qui a entraîné des tensions puisque dans la soirée, un groupe de militants identitaires a créé du désordre au sein de la guinguette du Héron Carré.
Le rappeur Davodka était notamment présent au Héron Carré. Rappelez-vous, on l'avait reçu jeudi dernier pour la promotion de son concert. Suite à cela, il a partagé un article de l'incident sur Instagram. Et on connaît désormais la liste des 46 candidats aux élections législatives dans les 7 circonscriptions de Maine-et-Loire.
La campagne législative est donc officiellement lancée puisque la limite de dépôt des candidatures était fixée dimanche 16 juin à 18h, dernier délai. Parmi eux, Elsa Richard du Nouveau Front Populaire pour la circonscription d'Angers Nord et Léo Métaillé pour la circonscription d'Angers Sud. La liste complète est disponible sur Internet.
Plus de 60 personnalités du sport qui appellent à voter contre l'extrême droite dans une tribune publiée hier soir.
Parmi eux, Yannick Noah, les navigateurs Isabelle Autissier et François Gabart, et même l'ancien footballeur Vicage Dorasso. Ils ont lancé cet appel dans une tribune publiée hier sur le journal L'Équipe, en vue des législatives anticipées, à l'instar de plusieurs joueurs de l'équipe de France, dont le capitaine Kylian Mbappé, qui a également soutenu cette prise de position en conférence de presse.
Et on termine en football avec le début de la conquête de l'Europe pour nos Bleus.
5 jours après leur arrivée en Allemagne, les joueurs de Didier Deschamps entrent en lice à l'Euro ce lundi à Düsseldorf, une occasion de tourner la page de la dernière édition en 2021, durant laquelle la France avait été sortie en 8e de finale par la Suisse. Nos Bleus devront donc faire face à une équipe autrichienne solide, malgré l'absence de leur capitaine David Alaba. Coup d'envoi ce soir à 21h sur TF1.
Merci beaucoup Victor pour ce flash.
Merci à toi Arthur.
On se laisse avec une petite pause musicale et on revient juste après pour parler du Shabada.
Kiss me more, we're so young, boy, we tools. Sang first, middle, last on the wisdom tooth. Niggas wishing that the pussy was a kissing booth. Taste breakfast, lunch, and gin and juice. And that dinner just like dessert too. And when we French, refresh, give me two. When I bite that lip, come get me two. He want lipstick, lip gloss, hickeys too. Huh, kiss me. We're so young, boy, we that you lost without me. All my bitches feel like I dodged it. Don't need fucking with you, feel like jail, nigga. I can't even exhale, nigga. Pussy like Holy Grail, you know that. You gon' make me need bail, you know that. Caught dipping with your friend, you ain't even had me lying on your, you know that. Got me a bag for the brick, you know that. Control them shoulder base and fight, throw back all this ass for real. Drama make you feel fantasy will, but bill is all I can give.
Vous êtes toujours à bord du pédalo. On vient d'écouter le titre Kiss Me More de Doja Cat et SZA.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
La suite du podcast Une salle à faire retrace l'histoire d'une salle de concert mythique d'Angers, le Shabada, créé en 1994, on l'a dit, dont la création n'a pas été de tout repos. On écoute ce deuxième épisode tout de suite.
Une salle à faire. Un podcast réalisé par Sébastien Rochard et Tiffaine Crézé. Dans la série des petites et grandes histoires du Shabada. À l'occasion des 30 ans de la salle. Épisode 2.
Donc on a eu les locaux de répétition de la Cerclaire. Donc la première tranche, on va dire, est faite.
François Jonquet.
Mais le dialogue semble un peu interrompu avec la ville. On n'a pas de réponse pour un lieu de diffusion. Or, nous, ça fait partie vraiment du... c'était un tout, quoi. Comme si la ville avait décidé que, sans doute, on serait satisfait avec ses locaux de répétition et puis ça allait bien, quoi.
Dans les différentes associations qui ont créé la Drama,
Philippe Payet,
il y avait des positions qui n'étaient pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que, autant donc certaines étaient favorables à l'idée d'une collaboration avec les pouvoirs publics, d'une reconnaissance et donc d'une forme de compromis avec les pouvoirs publics, autant d'autres étaient plutôt sur une base, au moins initialement, de revendication d'un espace un peu alternatif. Ce serait bien vu dans des squats, dans des lieux de ce type-là. Donc la négociation n'aurait porté que sur « laissez-nous au moins cette liberté-là ». Et après, on se débrouille, sans subvention, en fait.
Nous, ce qu'on pouvait voir avec les Tugs un petit peu partout en Europe, parce qu'on commençait à tourner un peu partout en Europe,
Éric Souris,
c'était plutôt des choses qui naissaient de squats ou de choses qui étaient investies par des associations, etc., dans des anciennes usines ou dans des choses comme ça, et qui montaient un petit peu tout. Ce qu'on a retrouvé en France aussi, pareil, dans les années 80, à Paris notamment, avec tous les squats qu'il y a pu y avoir. Et nous, on était un petit peu plus sur cette tendance-là, pendant qu'une autre part de la Drama, eux, voulaient vraiment faire une demande et très officielle à la mairie et que ça soit la mairie qui crée un endroit, voilà, et que après ça soit laissé à la gestion de la Drama.
Oui, alors il y a eu effectivement dans la stratégie définie dans l'association, il y a eu des courants, il y a eu des moments où il y avait, je me souviens, la motion dure et la motion pas si on peut dire molle, mais en tout cas plus diplomatique, voilà, sur des stratégies. C'était plutôt sur la manière d'agir, en fait, vis-à-vis du politique. Ça se jouait là, en fait, hein, principalement.
L'Assemblée Générale de 90 s'est déterminée sur l'application de la motion dure. Son objectif, secouer le cocotier des habitudes d'une asso ronronnante, rentrer dans l'art d'une municipalité bedonnante et assoupie, attirer l'attention des médias et remobiliser ses adhérents par des actions d'éclat. À Drama News, décembre 1991.
Donc, devant ce silence, on a décidé de passer à des actions, alors bon, pas violentes, hein, mais en tout cas de faire un peu de bruit. Et l'idée avait été d'organiser un concert pirate, entre guillemets, non autorisé, voilà, dans un lieu. Voilà, il y a eu l'occupation de la salle d'Avier, par exemple.
Il y avait une salle qui servait de local de répétition au Lujo à l'époque. C'était une salle qui ne servait pas, etc.
Jean-Paul Roman.
Donc on a squatté le lieu, on a loué un groupe électrogène, parce qu'on s'est dit s'ils viennent et qu'ils nous coupent le courant. Parce que c'en était là, hein. Les dialogues étaient quand même, avec Pilet notamment, étaient très tendus. Donc on a fait deux soirées de concert avec le noyau des musiciens d'Angers de l'époque. Il y a eu Lujo, il y a eu Tux, il y a eu d'autres groupes qui marchaient à l'époque. Le but, ça a été de démontrer qu'on pouvait faire des concerts en centre-ville sans qu'il y ait de nuisances. Et que ça se passe bien. Dans un lieu qui était dans le centre-ville, mais qui ne générait pas de nuisances immédiates, où il y avait des accès possibles, etc. Donc le lundi, ils ont changé les clés, bien sûr, c'était foutu. L'autre jour, on n'avait plus de locaux de répétition.
C'est bien mieux, pas qu'il m'en plaît. C'est tant mieux, pas qu'il m'en plaît. C'est bien mieux. Pas qu'il m'en plaît, c'est bien mieux.
En gros, c'est une opération de communication squat sur deux jours, organiser un festival un peu sauvage.
Casbah.
Pour dire à la mairie, regardez, ça se passe bien, on est capable d'assurer un événement, blablabla. Bla, bla, bla. Toute la presse était venue, ça avait aussi fait partie du jeu pour au lobby, dans le lobbying, qu'on peut appeler ça comme ça.
Faute de salle, la Drama fait tapisserie. Remous dans le PMA, paysage musical angevin. Deux concerts gratuits et sauvages ont eu lieu. C'était l'occasion pour la Drama de réaffirmer haut et fort une revendication. Nous voulons une salle de concert. Réponse de la municipalité. On se calme, ça va venir. Patience. Mais c'est difficile d'être patient quand on est jeune et passionné, figurez-vous. Quelle affaire ! Certains parlent même d'une salle à faire. Rendez-vous compte, les musicos de la Drama ont squatté des ateliers de tapisserie pour jouer de la zizik. Plus exactement, des futurs ateliers et salles d'expo de tapisserie, anciennement maison du jeune théâtre. Vivre à Angers, mars 1991.
Donc les concerts sauvages ont failli faire tout capoter, ça c'est sûr.
Gérard Pilet.
Il n'y en a pas eu qu'un. C'était de la même démarche que les sièges cassés en plus. Parce que, un, pas d'autorisation. Deux, ils se foutent de nous, les réunions que tu as eues avec eux, ça sert à rien. Troisièmement, bon bah stop, on arrête. Non, on n'arrêtera pas. C'est pas possible. Il y a eu des conneries de fête, on est d'accord. Comment on peut rattraper la chose? Et c'est peut-être de notre faute.
On voit bien que ça commençait à partir dans tous les sens.
Fabrice Villechien.
Il y avait des concerts un peu partout, il y avait des concerts sauvages. Il fallait mettre fin quand même à ça, quoi. Parce qu'après, le débordement, quand ça déborde, tu tiens plus rien, quoi. Et donc d'avoir un lieu repérable, accessible, ouvert, ça devenait presque une nécessité pour éviter qu'on ait des concerts qui se développent un petit peu partout, qui étaient incontrôlables.
Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? À deux mois du vote du budget municipal, les rockers angevins scrutent en vain l'horizon des crédits pour la construction de leur fameuse salle. Selon eux, c'est maintenant ou jamais. Coup de bluff ou baroud d'honneur ? Le Courrier de l'Ouest, décembre 1991.
L'autre étape, ça a été la campagne d'affichage.
Jean-Paul Roman.
Quand ça avançait, puis que ça avançait pas, assez, à un moment donné, on avait différents champs d'action. On avait prévu d'aller faire un concert de casserole au conseil municipal. trouvais que c'était un peu gamin par rapport au projet qu'on avait. Et à un moment donné, il y en a un qui a eu le dire, ben voilà, on va faire une affiche. Et donc, on a fait des affiches assez grandes. Quand le maire était venu inaugurer les locaux de répétition, les journalistes avaient dit, ah, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez vous mettre derrière la batterie, on va faire une photo, tout ça. Photo du maire derrière la batterie, avec ce slogan là, je sais où répéter, mais je sais pas où jouer. Et puis, avec ce slogan, une salle à faire.
Comme c'est Noël, entre Noël et Jour de l'An, il n'y avait que nous qui collions les affiches, donc elle s'est bien vue. En parallèle de ça, on avait fait une pétition assez importante.
Puis effectivement, un matin, la ville s'était réveillée avec ses affiches collées un peu partout en ville.
Donc Jean Monnier était en Égypte, donc il était à l'étranger.
On ne savait pas, nous, on n'a pas le calendrier du maire. Donc on fait notre campagne d'affichage, on en met partout, des belles affiches, etc. Jean Monnier rentre, tout le monde dit « aïe, 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 aïe ».
Ça a été un petit déclic sympathique, pas bien pris au départ.
Gérard Pilet.
Il me dit « qu'est-ce que t'as foutu ?» Je dis « moi, j'ai rien vu, hein. Pas au courant du tout, non, c'est pas possible. » « Non, pas au courant du tout. » Non, tu ne peux pas la faire enlever, c'est pas possible. Hein.
Là, c'est une crise en disant, les gars, vous exagérez quand même.
Marie-Yvonne Fleury.
Donc, convoquez-les-moi, moi je veux les voir, qu'est-ce que c'est que ce boulot et tout. Et Gérard Pilet était très très fâché aussi. On s'est dit, ouais, mais moi je fais tout pour et tout. Et eux, ils avaient mis la pression. Il y a eu une blessure, à un moment donné, un peu, en disant, quoi, on leur fait ça, et puis on se retrouve placardé, qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais l'histoire du jeu de mots, de la salle à faire, ça, vraiment, avec Jean Monnier sur l'affiche derrière la batterie, quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas s'empêcher d'en sourire, d'en rire, quoi. Parce que c'était vraiment, c'était vachement intelligent, c'était fin, c'était pertinent. Fallait oser.
Et à partir du moment où là, on impliquait directement le maire,
Fabrice Villechien,
qui quand même à l'époque impulsait beaucoup de décisions. Ça tournait quand même beaucoup autour de Jean Monnier. À partir du moment où lui-même était impliqué directement, les choses ont changé. Ça, c'est vraiment le fait déclencheur. C'est vraiment le truc qui a fait basculer la décision, quoi. Après, à partir du moment où le maire avait décidé qu'il fallait y aller, derrière, ça suivait.
Et donc, y a eu une grande réunion, une grande messe. Bon, les gars, alors, vous permettez de... Nanana, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et puis, en face, il y avait des gars qui tenaient bien la barque, qui étaient droit dans leurs bottes, mais très sympas. Ils ont expliqué leur démarche et ils ont réussi à la fin de la réunion, c'était bon, on présente ça en municipalité.
30 janvier 92. La table était ronde et conviviale. Jean Monnier, maire d'Angers, et Gérard Pilet, adjoint aux affaires culturelles, recevaient une délégation de l'ADRAMA. Pour Jean Monnier, ni nouveau départ, ni tournant dans le feuilleton, cette réunion s'inscrit dans la continuité de l'action entreprise par la ville pour un lieu de concert. Le projet de la ville sera une construction neuve, dont les principes d'organisation reprennent les intentions proposées par l'ADRAMA dans son dossier. C'est bien un lieu vivant et permanent que la ville entend réaliser. Yeti, février 1992.
J'avais la chance, d'avoir un complice qui voyait ça de loin aussi, c'était le maire.
Gérard Pilet.
Les discussions étaient âpres dans les choix budgétaires et les orientations. Une fois que le problème était réglé après le vote du budget, je fonçais dans la mesure où le projet était bien arrêté.
Il y a eu pendant un an ou deux quand même...
François Delaunay.
Une difficulté à trouver un lieu. Je pense que la mairie, dans un coin, avait envie de faire quelque chose, mais il y avait une difficulté à trouver le lieu. Donc on est allé visiter différents lieux.
On a vu des revers. Moi, j'avais proposé la Baumette. J'avais proposé un lieu du côté du Ronceret. J'ai ça en mémoire. J'avais proposé un lieu qui est maintenant construit sur les justices avec les trois mâts. La gare, mais alors c'était un projet, il se termine. Dans les parkings, là c'était l'idée parisienne, mais spécial rock sur Angers.
Quand il y a eu la piste de l'Élysée qui a été évoquée, c'est parce qu'on raisonnait salle de spectacle, concert, point barre, quoi. Un champs-ibis, voilà.
Et les anciens abattoirs sont arrivés un jour dans une discussion à bâton rompu. Je me demande si c'est pas dans un ascenseur avec l'architecte de la ville qui était Daniel Roussel, en lui disant « Mais qu'est-ce qu'on va foutre des abattoirs là-bas » Alors il me dit « Parce que, j'ai dit, écoute, si on cherche des lieux dans la ville, proches, parking, qui n'embêtent effectivement pas les riverains, puisque c'est toujours un problème pour tout le monde, les abattoirs, ils peuvent être aménagés. Ah oui, mais ça coûte cher, etc. » J'ai dit « Attends, faisons une étude. » Et quand c'est arrivé en réunion municipale, c'est-à-dire en bureau municipal, maire et adjoint, Est-ce qu'on était deux à défendre le projet? Peut-être oui.
Ça traînait, on se demandait s'ils n'étaient pas en train de faire pourrir le truc. Et tout d'un coup, on reçoit un appel de Jean Monnier, ou de ses services, qui nous dit « Bon les gars, j'ai une idée, les abattoirs, qu'est-ce que vous en dites? On se retrouve là-bas ». On s'est retrouvé aux abattoirs, on s'est regardé en se disant bah, « De toute façon, en gros, c'est ça ou rien. » Donc, toujours est-il que les abattoirs, on a dit oui tout de suite, évidemment.
Et donc, le lieu des abattoirs offrait d'une part... Par rapport au projet qui était quand même clairement énoncé, donc vous voyez qu'il y avait une grande salle, il y avait un bar de proximité, il y avait une petite salle, que ça serait bien qu'en même temps on puisse faire des choses qui soient à l'extérieur, fallait faire attention au voisinage. Voilà, donc il y a eu tous ces paramètres-là, et quand le lieu a été visité, on dit bah oui, il y a même trop grand. Mais justement, ça permettait de faire. De faire des heureux, puisque le CNDC et le Centre Dramatique National, ils ont eu des locaux de création-répétition à l'arrière du Chabada.
Dans le projet initial que j'ai écrit, que j'ai proposé à l'association, et qui a été transmis à la ville...
Gilles Trinque.
C'est que il puisse y avoir des lieux de répétition, qu'il puisse y avoir, que ce soit un lieu qui puisse accueillir d'autres associations, qu'il y ait plusieurs visions et... plusieurs musiques qui soient défendues, et puis qu'il y ait cette collégialité dans le lieu qui existe, quoi. En fait, ce ne soit pas une personne, un programmateur qui décide de tout, et un administrateur qui gère l'argent, quoi. Enfin voilà, moi j'étais très attaché à cette dimension collective et collégiale du lieu.
La définition qu'on avait à l'époque, aujourd'hui il y en a plein des lieux comme ça.
François Delaunay.
On dit des tiers-lieux, nous c'était lieu vivant et permanent. De diffusion et de répétition, de création et de diffusion musicale. Il y avait un restaurant, il y avait les locaux de répète, etc. C'est devenu vraiment un truc très basique maintenant. Il y en a partout, principalement dans des friches, effectivement. Mais à l'époque, c'était ça.
C'est vrai qu'on l'avait imaginé comme ça.
François Jonquet.
Maintenant, l'axe principal reste quand même la diffusion. Et ça, ce lieu va la permettre de toute façon. Donc, la diffusion, la création, etc.
Quand l'architecte a été nommé, il arrivait juste d'avoir fait les plans du Souverain des Mers, qui était à l'époque un des très beaux bateaux somptueux faits à Saint-Nazaire. Et quand il est arrivé, il voulait, comme tous les architectes, un geste architectural, marquant, etc. Et il arrivait avec des plans, un peu, qu'il avait travaillé avec l'architecte de la mairie d'Angers, qu'on connaissait bien. Nous, on arrivait en disant « Ah non, mais nous, on veut pas de ça. Nous, on veut à la fois l'héritage des friches industrielles du CBGB à New York, d'où les espèces de petites trucs rouges là devant, là, qui sont typiquement américains. On veut reproduire un peu, à l'époque, c'était un peu la mode des murs faussement vieillis, tout ça, des patines, on veut des rideaux rouges, on veut du bleu nuit. »
Ce qu'on défendait, c'était encore une fois... un rapport scène-salle équilibré, de pouvoir stocker correctement le matériel et surtout d'avoir un équipement qui correspondait au lieu, quoi. Enfin, que le projet soit techniquement cohérent. De l'accueil des groupes aux conditions de diffusion, au niveau acoustique, au niveau de la jauge, enfin, etc. Et donc ça, nous, on avait une vraie réflexion et on avait aussi une vraie pratique parce que, moi, à cette époque-là, on était, toutes les semaines, on était sur la route et en concert, hein, donc, et on jouait dans la France entière, donc, et dans des structures qui étaient complètement différentes. Donc on avait une vision de la diversité et des difficultés qu'on avait ou du confort qu'on pouvait avoir ici ou là. Enfin, donc voilà, mais... espace de négociation avec la ville, pas du tout, enfin, ou quasiment pas.
Réunion à la mairie. Convoque Delaunay, machin, etc.
Jean-Paul Roman.
Bon, pilé, les gars. Donc, présentation de l'architecte qui vient présenter le projet de salle. Donc, on avait eu les plans de masse des abattoirs. Donc nous, on avait réfléchi, on avait mis des différents trucs qu'on pouvait déplacer sur le schéma pour dire, bah, tiens, on pourrait faire ça là, on pourrait faire ça là. Parce que nous, on voyait les problèmes qu'il y avait dans les autres salles. C'était notre métier. Je veux dire, on a tourné les problèmes d'acoustique, les problèmes d'accès, de fluidité, etc. Vous venez à la réunion, mais vous êtes auditeur. Vous n'avez pas le droit de parler. Donc je ne vais pas vous entendre. Donc il y avait les services techniques de la mairie, l'architecte, qui présente son truc, tout le monde. Ah oh, oui, super. Oh, les gars. Et l'architecte, à un moment donné, il dit, ben, vous pourrez peut-être demander aux futurs utilisateurs ce qu'ils en pensent. Vous n'avez rien à dire, ça? Ah non, mais avant la réunion, Gérard, il nous a demandé de ne pas intervenir, donc... faites pas les gamins, si on pose une question, vous pouvez répondre. Bah, faudrait savoir. Non. Ça correspond pas. Ils avaient fait un espèce de hall d'entrée qui ressemblait à un collège ou un hôpital ou un commissariat de police, que sais-je. Enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Alors, les gars, des services. Vous voyez ce qu'on avait dit, hein, voilà, c'est ça, ils sont jamais contents, machin. À la fin de la réunion. L'architecte, il va les voir un peu discrètement, comme ça. Bon, j'ai l'impression que ça va être compliqué avec la mairie, donc ce qu'on va faire, je sais que vous n'avez pas trop de sous, je vous paierai l'essence et vous viendrez me voir à Nantes pour m'expliquer vos trucs, parce que j'ai entendu des choses que vous avez dites qui étaient plutôt, qui me semblent assez, assez pertinentes.
Et après, on a suivi avec les archis jusqu'au bout, tout, les couleurs des carrelages, partout, partout. J'ai vraiment des souvenirs, on allait à Nantes, ils venaient ici, parce qu'ils étaient basés à Nantes.
Dans ce que j'ai vécu au niveau des projets de construction ou de rénovation, de réhabilitation, c'est l'un des projets que je dirais assez exemplaire.
Marie-Yvonne Fleury.
Parce qu'en fait, la partition a été assez bien distribuée. La partie expertise de la drama avait été acquise. Et donc, comme le secteur des musiques actuelles, c'est un secteur que les collectivités, les architectes eux-mêmes, ne maîtrisaient pas vraiment, il fallait à un moment donné faire confiance. Et donc... quand on avait telle problématique, bah, ils savaient y répondre.
On a eu la chance d'avoir une équipe technique, administrative et musicale du Chabada qui a apporté quand même beaucoup dans la démarche et dans le type de relation.
Ils ont réussi à avoir du matériel de récupération. Enfin voilà, ils ont présenté ça. Ah oui, parce que bon, on avait une municipalité qui fonctionnait comme toutes les autres municipalités à cette époque-là. Un bâtiment neuf, même s'il est rénové, matériel neuf, voilà. C'était, ouais, mais faut, parce qu'il faut que ça soit clean. Et ben là, ça a été lâché. On dit, ah oui, non, mais il faut du matériel, même au niveau du matériel de son. Voilà, ils ont fait des recherches pour faire des économies à la ville et tout. Donc, il y a eu vraiment de la confiance. C'est pas du baratin, voilà, pour enjoliver, mais moi, je me rappelle très bien cette époque-là où en fait, on travaillait sur du projet, quoi. C'était constructif, voilà. Et si on pouvait gratter des sous, eh bien on les grattait, à droite à gauche.
Toucher le fond et croire encore à cette terre qui sent la mort, à ces rêves disparus, nés dans le ventre de la rue.
Pour essayer de sortir un nom. On ne voulait pas que ça s'appelle les abattoirs. On avait fait plusieurs formes d'appels de noms. On avait fait un lancement avec un des Yeti qui fait un lancement de noms comme ça.
Il est temps d'avancer.
La Drama lance son premier concours d'hiver. En effet, si 93 est bien la dernière année avant l'ouverture de la salle et du café-concert prévu, début 94, les cerveaux adramesques fatigués n'ont pas encore trouvé de nom à ce futur lieu vivant. Alors voilà, c'est simple, vous nous soumettez vos idées. Celle qui fera l'unanimité au sein de l'Adrama passera ainsi à la postérité et son auteur gagnera l'accès libre à tous les concerts la première année. Yeti, janvier 1993.
C'est Doumé Pasquini, qui était dans les Dirty Hands.
Philippe Théillet.
Il avait trouvé cette expression consistant à qualifier les Rennais de Shabada Shabada. C'était le côté un peu branché des Rennais avec des connexions fortes au ministère de la Culture, à Jack Lang, etc. Et donc le Shabada, c'était celui qui, venant du rock, est devenu une espèce de nouveau professionnel du monde de la culture, très branché, etc. Et c'était un peu ce que l'on ne voulait pas être. Donc il y a eu une soirée à la Sartère, soirée de brainstorming pour trouver un nom, ou choisir entre des noms qui étaient proposés. Il n'y avait pas grand-chose, et c'est celui de Doumé, le Shabada, qui a été repris, sans grand enthousiasme, mais on n'avait pas trouvé mieux. Alors il y avait aussi ce côté rythme de Charlet à la batterie, puis il y avait derrière aussi ce que nous ne voulions pas être, mais ce que nous serions inéluctablement, donc une nouvelle institution culturelle.
Le Shabada, même en 94, même s'il y a eu des salles avant, c'était des pionniers. Hein.
Didier Veillot, fondateur de la Fée du Rock, aujourd'hui Fédération des lieux de musiques actuelles.
D'aller voir des élus pour convaincre d'ouvrir une salle, j'imagine ô combien c'était difficile. Le Shabada était comme une référence pour les autres salles, pour créer d'autres salles, etc. Quoi. Vraiment, ils ont été très, très actifs. C'était un exemple, quoi. Un exemple un peu rassurant aussi, parce que c'était une salle qui n'était pas forcément rock'n'roll, je ne sais pas comment dire, mais qui était une préfiguration de ce qu'allait devenir les scènes de musiques actuelles.
Angers est une ville rock. Dès les premiers pas de la visite inaugurale, ce constat était devenu une évidence. L'équipe de la Drama misait sur 2000 personnes, mais en fin d'après-midi, alors que de l'ombre surgissaient les premières notes de musique, on pouvait déjà deviner que l'hypothèse était franchement trop modeste.
L'inauguration, c'était un délire absolu, quoi. On n'avait absolument pas anticipé qu'il y aurait autant de monde. On était à 5000 personnes, quoi. Il y en avait partout. C'était un truc de fou. Ouais.
De voir la foule, principalement de jeunes, c'est quand même, faut le dire, qui étaient sur le parking et à l'entrée du Shabada et bien sûr dedans, mais surtout dans l'extérieur, qui démontrait que quelque part, ben, on avait gagné. Quand je dis 11, chacun à sa place, et la ville, on n'a pas fait plus que d'autres, elle a fait son boulot. C'est l'image que j'ai, la foule. Quant à la foule qui est là au rendez-vous, ça veut dire que quelque part, le projet est approprié, il est vécu, il est accepté, c'est pas un truc que t'as greffé et qui a du mal à démarrer, il a démarré.
Pour nous, en tant qu'Angevin, c'est un événement déjà. Et je pense qu'effectivement, en France, bah voilà, il y a une ville qui bouge et tout, et où tout d'un coup, voilà, il y a moyen de faire des concerts facilement, il y a le son, il y a la lumière sur place, t'as juste à mettre l'électricité, deux gars, et ça roule, quoi. Donc oui, c'est un événement.
C'est incroyable, en fait, d'arriver... On allait enfin ouvrir le lieu, c'était le départ d'une grande aventure. Hein. Et puis pour la soirée, bah, bon, moi j'ai un souvenir qui est assez personnel parce que j'ai couru toute la soirée en fait. C'est-à-dire qu'on a dû faire 4700 personnes de mémoire. On en attendait peut-être 2000 et on en a eu 4700, c'était incroyable, c'est assez magique.
Il y avait d'ailleurs Pat Bélan qui était dans la mouvance théâtre, comédie, et qui nous époustait, qui me balayait derrière nous. Avec un petit pendant qu'on faisait la queue avec toutes les édiles, et derrière il était avec un ramasse-bourrier, comme on dit, avec une balayette, et il balayait derrière à chaque pas, pas devant. Je me souviens de ça parce que mes élus qui étaient pas collés montés, parce que c'était pas, voilà, c'était pas l'ambiance, mais voilà, c'était protocolaire, on va dire. Derrière le protocole, donc, il y avait ce fameux Pat Bélan qui nous balayait sous les pieds.
Enfin, résultat, à minuit, les organisateurs étaient obligés de refuser du monde tellement les salles étaient pleines à craquer. Cette soirée baptême était une belle lune de miel. Son succès promet sans doute de très joyeux anniversaires.
Une salle à faire, un podcast réalisé par Sébastien Rochard et Tiffaine Crézé, dans la série des petites et grandes histoires du Shabada, à l'occasion des 30 ans de la salle. avec la voix de Laure Bourru. Un documentaire produit par le Chabada, en partenariat avec Radio G et Radio Campus Angers, et financé par le programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels du ministère de la Culture. Merci à la photothèque de la ville d'Angers, à Eric Souris et à Casbah pour leurs archives. Réalisé en mars 2024.
Et le pédalo termine sa traversée sur Radio Campus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Demain, on parlera de la montée du Rassemblement National en France avec la Confédération Paysanne d'Angers. A très bientôt sur le 103 FM. Et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.